La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardi du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade. C'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Pierre-Yves Beaurepaire, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur et qui est membre de l'Institut universitaire de France. Eh bien, Pierre-Yves Beaurepaire, bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour. Vous avez fait plusieurs ouvrages très intéressants. Mais là, on va vous inviter plus particulièrement pour un ouvrage qui a eu le prix du Sénat du livre d'histoire 2023, qui s'appelle Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot. Et ce qui est assez intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous plongez dans la matrice de ce qu'on peut appeler le complotisme contemporain, en tentant de faire la part de l'histoire de cette société des Illuminatennes qui est issue des Lumières radicales du XVIIIe siècle, mais aussi par rapport au mythe qu'on lui prête de faire part d'un complot. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est à la fois un livre d'histoire sur cette société des Illuminatennes, mais aussi c'est une réflexion sur l'univers du complotisme. Donc c'est tout à fait intéressant, votre ouvrage. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc vous nous faites savoir un peu dans l'histoire un peu d'où est venue toute cette construction autour du mythe des Illuminatennes qui sont transformées plus tard en Illuminati. D'une part, au départ, c'est par rapport à certains livres qui ont un certain succès au XVIIIe siècle, mais après, il y aura encore d'autres enrichissements. Enfin, ça va évoluer au cours des années, au cours du siècle, pour se transformer vers d'autres formes plus contemporaines. Mais ça, on va le voir à travers l'étude de votre ouvrage. Donc, on va peut-être d'abord commencer par le commencement et la société des Illuminatennes qui va se créer vers 1776, je crois, en Bavière. Et c'est donc on va commencer aux origines sur la création de cette société par un personnage qui s'appelle Weishaupt. Donc si vous pouvez un peu dire un peu pour nos auditeurs dans quel contexte ce club de lecture, en quelque sorte, issu des Lumières, va éclore dans un contexte un peu particulier en Allemagne, dans un contexte aussi particulier par rapport à voilà, toutes ces histoires un peu culturelles et sociales de l'Europe à cette époque-là, des Lumières et de certains conflits qu'il peut y avoir, des idées entre, d'une part, par exemple, l'ordre des Jésuites et d'autre part, c'est ce qu'on peut appeler les Lumières ou les sociétés de franc-maçonnerie.
Oui, tout à fait. En fait, comme vous l'avez bien rappelé, ce que j'essayais de faire dans le livre, c'est à la fois de voir en quoi la représentation que nous on a, c'est-à-dire les Illuminati comme constitutifs de la sorte de matrice du complotisme, prenaient en fait leur origine dans une société qui ne s'appelle pas de la même façon, elle s'appelle les Illuminaten, effectivement, puisqu'ils sont nés en Allemagne, et donc à une société, à un fondement véritablement historique, et puis c'est ensuite que les deux ont divergé. Hein, l'histoire d'un côté et le mythe de l'autre. Et donc, comme vous le disiez, le contexte est vraiment particulier parce que dans l'Allemagne étant en majorité protestante au XVIIIe siècle, mais il se trouve que ce soit sur le Rhin ou en Allemagne du Sud, il y a toute une présence catholique forte et même très forte en Bavière à ce moment-là, mais qui est chamboulée par la suppression de l'ordre des Jésuites. Il y a d'abord des princes qui ont attaqué la Compagnie de Jésus au Portugal, en France, et le pape lui-même a fini par supprimer donc la Compagnie de Jésus 3 ans plus tôt, en 1773, et bien évidemment, ça a un peu ébranlé le cadre éducatif de l'époque, parce que en pays catholique, en France comme dans la Bavière de l'époque, eh bien les jésuites étaient vraiment très investis dans les collèges, c'est-à-dire intermédiaires entre nos collèges et nos lycées, et former une bonne partie des élites de l'époque, mais pas seulement, hein, leur recrutement allait au-delà. Et donc, pour le fondateur, qui s'appelle Adam Weishaupt, qui est lui-même a été élève des jésuites et professeur de théologie à l'université d'Ingolstadt, en Bavière, donc c'est quelqu'un de jeune, hein, il a 28 ans quand il fonde les Illuminaten. En fait, il fait partie de ceux qui ont voulu, et c'est une caractéristique des Lumières à l'échelle de l'Europe, se débarrasser de la tutelle des jésuites sur l'éducation. Et alors on pourrait se dire, mais le pape lui-même les a supprimés à ce moment-là, donc il n'y a plus de danger. Dans la logique de Weishaupt, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il a l'impression que les jésuites sont encore plus dangereux parce qu'ils ont été officiellement supprimés, et donc ils vont devoir se masquer pour se cacher pour poursuivre une œuvre qui pour lui est une œuvre vraiment de... Il ne dit pas que ce sont de mauvais éducateurs, il dit qu'en fait ils formatent les esprits, les contrôlent, etc. Donc c'est pour ça que son projet s'inscrit vraiment dans celui des Lumières radicales, c'est-à-dire vraiment se débarrasser de cette... de cette tutelle. Et au départ, il se cherche un peu. Effectivement, il y a un côté club de lecture, mais il sait aussi que toute la fascination qu'exerce à l'époque le secret, que ce soit celui des initiations. Alors, vous parliez de franc-maçon. Effectivement, il a été reçu franc-maçon l'année où il crée les Illuminaten, mais en même temps, il trouve que son projet à lui est beaucoup plus intéressant, hein. C'est quelqu'un d'assez mégalo. Il veut aussi... réunir autour de lui ses étudiants pour effectivement partager des lectures qui vont vers le sens là aussi des Lumières radicales, d'Holbach, la maîtrise, etc. Tout ça, l'idée étant une sorte d'utopie éducative qui permettrait par degré d'accéder aux Lumières et donc à une forme d'émancipation intellectuelle et morale. Et à titre d'exemple, le symbole, parce qu'on a toujours plein d'idées en tête sur le symbole des Illuminati, le seul symbole des Illuminaten, c'est une chouette, la chouette de Minerve, donc la déesse de la sagesse, et qui est posée sur un livre blanc, un livre ouvert, où on a les initiales latines, hein, qui disent que, à travers mes yeux, donc ceux de Minerve, les aveugles voient. Donc il y a vraiment une idée de gagner soi-même, hein, à travers cette expérience au monde, une forme de libération, d'émancipation. Et c'est ça qui va séduire certains de ses contemporains.
Et ce qu'il y a aussi, ce qu'on n'a pas parlé dans ce cadre-là, hein, même dans toutes les sociétés de cette époque autour des loges maçonniques qui sont un peu, voilà, la connaissance, enfin la recherche de la connaissance, du savoir, avec un peu une quête vers les origines du mythe de la sagesse antique, hein, qui est issue de la Renaissance, avec revenir à la sagesse antique. Donc on va avoir des études ésotériques, des études gnostiques un peu pré-chrétiennes, comme ça, vers l'Antiquité, ou comme on verra aussi à la Révolution française. Mais on redécouvre un peu toutes ces choses-là avec la pensée grecque, la démocratie, où c'est plus le règne des princes, mais c'est le règne de la raison, le règne de la démocratie, que le Moyen-Âge obscurantiste, il aurait écarté. Et donc c'est que les loges maçonniques, elles sont là pour que fabriquer, faire venir que ce serait des gros, enfin, pour développer la sagesse, pour qu'ils deviennent des grands esprits, pour qu'ils arrivent à montrer les lumières, comme le nom Illuminaten, c'est illuminer, c'est montrer les lumières et la sagesse face à l'obscurantisme religieux, c'est un peu cette métaphore-là. Mais aussi, dans ce contexte-là, il y a aussi une empreinte à tout ce qui était autour des Templiers, qui est aussi ésotérique, mais aussi un peu alchimiste, avec un savant dosage entre alchimie et ésotérisme et société secrète, hein, qui sont aussi issus aussi de quelques siècles auparavant, et donc ces Templiers qui ont été condamnés par Philippe le Bel pour des vagues histoires obscures de trésors, mais qui étaient aussi à travers la gnose. Enfin, des trucs qu'on peut voir dans le roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Enfin, on peut un peu voir toutes ces choses-là, et c'est aussi cette époque aussi parle aussi un peu de ça, mais et que donc. Qui sont des sociétés qui sont secrètes parce que voilà, elles se protègent de l'obscurantisme et de ces choses-là. Et donc, forcément, il y aura un mythe du secret et du complot qui va leur coller à la peau par cause des mythes sur lesquels ils se développent, mais qui vont, à leur corps défendant, donner un côté négatif à leur pensée. Ça donne une arme aussi à leurs ennemis.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un creuset. C'est un creuset à la fois d'inquiétude sur le contemporain, hein, ce que je disais à propos de cette emprise des jésuites et puis de manière générale de tout ce qu'ils perçoivent comme les anti-lumières sur l'éducation, l'organisation de la société, etc. Et puis aussi de leurs attentes. Hein, on revisite les cultes à mystère antique, ceux d'Eleusis. Alors, vous évoquez pas mal, même beaucoup la franc-maçonnerie. En fait, pour Weishaupt, la franc-maçonnerie, c'est vraiment un réservoir où il va pouvoir puiser des effectifs, chercher de nouveaux membres. Mais une fois encore, hein, il estime vraiment que son projet est beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant que la franc-maçonnerie qui, à l'époque, alors elle marche très très bien, hein. Elle représente des dizaines de milliers de membres, des milliers de loges à travers l'Europe et le monde, mais qui pour lui est trop conformiste et trop légaliste, interdit vraiment toute transformation profonde de la société, alors que lui, il est dans une démarche beaucoup plus militante, ça c'est certain. Et après, les membres qui vont rejoindre les Illuminaten, eux peuvent avoir des projets tout à fait différents. Certains sont effectivement fascinés par une antiquité revisitée, parfois même imaginée, hein, inventée, et d'autres connaître. Donc, il écrit lui-même un livre là-dessus, hein, sur Pythagore ou l'art secret de gouverner le monde, donc d'apprendre aussi les moyens d'influencer les puissants, de gouverner les sociétés. Donc, il y a vraiment des enjeux très différents les uns des autres. Et bien évidemment, ça va faire très peur aux autorités quand ils vont se dire jusqu'où on ne devient pas, à travers cet ordre secret, une société secrète, menacée et menaçante, etc.
Voilà, et ça, il faut aussi parler, ça c'est une anecdote, mais assez révélatrice, hein, du moment de la où les autorités vont dissoudre, enfin vouloir dissoudre cette société secrète. Un événement fortuit, c'est le décès d'un membre de la accidentel d'un membre de la confrérie, hein, et dont parce qu'ils avaient beaucoup de papier sur eux. Enfin voilà, c'était très codifié, avec ils avaient vraiment des archives sur eux qui expliquaient un peu leur fonctionnement. Et dans le décès d'une personne, on va trouver des archives, et c'est ce qui va faire naître peut-être quelque part la légende de cette société comme vraiment très dangereuse et formant un complot contre les autorités à une époque qui précède de peu la Révolution française. Et c'est ça aussi peut-être qui va expliquer le fait que des personnages vont faire des livres là-dessus qui sont loin de la réalité, mais qui auront un certain succès. Mais ça, c'est voilà, on parlera peut-être plus tard, mais c'est voilà, c'est des petits événements fortuits qui vont précipiter les choses voilà, dans l'histoire. C'est quand même c'est intéressant dans votre histoire comment les anecdotes un peu voilà ont un grand poids.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que, pour ça que je commence le livre par ça, hein, c'est au printemps 1785, donc vraiment la société n'a pas 10 ans encore, hein, alors qu'aujourd'hui tout le monde connaît le nom des Illuminati, eh bien, c'est un incident tragique mais totalement fortuit, un orage. Un des membres des Illuminatums qui partait en mission est foudroyé, et sur son corps, on trouve les documents. Alors bien évidemment, après, pour les complotistes, le coup de foudre au sens littéral du terme sur le Père Lance, hein, puisque c'est lui dont il s'agit, eh bien, ne peut être qu'une volonté divine de punir tout simplement les Illuminatums, hein, l'ordre de Weishaupt. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve effectivement sur ses documents, sur son corps, ces documents, et c'est là qu'on voit que c'est une société, pour une société secrète, qui a produit énormément d'archives, d'informations, de correspondances, d'échanges. Hein. J'en ai trouvé et retrouvé beaucoup, on en trouve sans arrêt. Et donc, bien évidemment, ça a servi ensuite aux autorités à la dévoiler, à divulguer ce qu'elle faisait, à divulguer les noms. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans le processus de répression de l'époque. Hein, avant, on étouffait les affaires. Là, on livre les noms en pâture au public, y compris quand c'est des noms puissants, de princes, de ministres. Enfin, il y a vraiment des gens de tous horizons chez les Illuminatums, des étudiants, des militaires, des diplomates, des voyageurs, etc. Donc, on livre les noms et on veut, en fait, taper un grand coup de pied dans la fourmilière pour faire peur, d'une part, et ça marche la plupart du temps, révéler les noms. Et effectivement, comme on est à quelques années avant la Révolution, qu'ensuite certains membres des Illuminatums, une fois qu'ils sont pourchassés en Bavière, tentent de les réimplanter ailleurs, et y compris à Paris, par exemple, en 1787, donc 2 ans après, ou à Naples, etc. Il y a eu même un projet aux États-Unis. Et bien, de ce fait-là, on va relire a posteriori pendant la Révolution et après, en disant, à l'époque où on cherche les origines complexes forcément de la Révolution, ah ben écoutez, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est pas une conjonction des causes sociales, économiques et politiques, c'est un complot. C'est le complot des Illuminatums pour mettre à bas tout l'ordre social, tout l'ancien régime, les princes, les églises, etc. Et voilà, on en a la preuve. Et ce discours-là, c'est les origines des théories de la conspiration politique, va avoir un énorme succès dès la Révolution et encore plus tout au long du XIXe siècle. Et vous évoquiez tout à l'heure Umberto Eco avec Le Nom de la Rose, mais dans le livre, moi j'utilise donc le pendule de Foucault, parce que dans le pendule de Foucault, il y a une façon dans le dialogue entre les auteurs de revisiter toutes ces lectures conspirationnistes de l'époque, et vous évoquez les Templiers, l'un des deux dit, de toute façon, à tel moment du discours, les Templiers ressortent. Et effectivement, les Templiers ont quand même disparu au XIVe siècle, mais dans la façon dont on voit les Illuminatums à l'origine de la Révolution, on fait la liaison avec les Templiers, comme si finalement, parce qu'il y a une maçonnerie templière, des grades templiers, etc., comme si finalement les Illuminatums seraient le bras armé, hein, de la revanche des Templiers contre le pape, contre le roi de France, et ça à plusieurs siècles de distance. Et ça, c'est un succès énorme. Et toujours pour citer Umberto Eco, il l'explore à travers l'un de ses derniers romans, Le cimetière de Prague, où là, on est directement en phase avec justement une partie des reproches que l'on fait aux Illuminaten, hein, c'est-à-dire d'avoir fomenté tous les troubles, tous les désordres, non seulement à la fin du siècle des Lumières, pendant les Révolutions, mais tout au long du 19e siècle. Et ça, c'est assez fascinant.
Oui, on reviendra avec cet épisode en 1806, avec la fameuse lettre de Simonini à la belle Baruel, mais on en parlera après la pause musicale.
Ya no hay timba ni bembé, porque dicen que mangaron al primo de Yenqueré. Bembrico, unos dicen fue a la una, otros dicen que a las tres, también cayó en la jugada el que alegraba el bembé.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On continue notre entretien avec Pierre-Yves Beaurepaire par rapport à son ouvrage Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot qui est paru aux éditions Taillandier. Et donc, maintenant, on va un peu s'intéresser à deux ouvrages qui sont parus en 1797. Et qui vont un peu transformer la société donc des Illuminaten en Illuminati, et donc l'histoire de cet ordre en mythe conspirationniste. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs volumes hein, par l'abbé Augustin Baruel de ce qu'il appelle les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Voilà, qui vont sortir. Donc, il y aura en tout 4 volumes, ça va vraiment faire une somme. Et donc, il dénonce dans la Révolution française, donc pour le jacobinisme, la responsabilité de ce qu'il appelle les Illuminés de Bavière dans le chaos et dans les guerres révolutionnaires hein, qui se sont abattues sur l'Europe. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est l'abbé Baruel. Hein, donc, il y a une histoire. Hein, voilà, vous en parlerez sûrement. Mais aussi, il y a un autre personnage hein, qui s'appelle John Robinson, un Écossais. Hein. Lui, son livre s'appelle Proofs of a Conspiracy Against All Religion and Government. Donc, c'est les preuves de la conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements, qui est aussi paru en 1997. Et lui, c'est un scientifique écossais qui est professeur à l'université d'Édimbourg. Voilà. Et donc, voilà, donc, si vous pourriez un peu nous parler un peu de ces deux livres, dans quel contexte ils sont apparus et de qu'est-ce que ça va changer hein, dans la fabrication de mythes des Illuminati.
Oui, alors tout à fait, ces deux livres sont très très importants parce que d'abord il y a une course de vitesse entre les deux auteurs, parce que hier comme aujourd'hui, le secret, les théories de la conspiration font vendre. Baruel, comme vous le disiez, c'est un ancien jésuite, il n'a même pas pu aller jusqu'à ses voeux de prophète, donc c'est quelqu'un qui a vraiment une volonté de revanche. Il va devoir attendre 1814, lorsque le pape va rétablir la Compagnie de Jésus, pour pouvoir aller au bout de sa démarche. Donc, c'est une façon de montrer aussi que le ressentiment personnel joue beaucoup là-dedans. L'abbé Baruel va avoir des correspondants en Allemagne, un peu partout, parce que lui-même ne lit pas l'allemand, qui vont l'informer. Donc de ce qui s'est passé concernant ceux qu'il appelle, lui, les Illuminés de Bavière. Il est à cette époque-là en exil à Londres, parce qu'on est pendant la Révolution. C'est aussi quelqu'un qui va essayer de faire le lien entre les philosophes, les sociétés de lecture, les francs-maçons, les Illuminati, donc pour lui les Illuminés de Bavière, et puis les Jacobins, dans un livre qui s'appelle Les Mémoires, tout simplement pour servir à l'histoire du jacobinisme. Donc il faut vraiment le plan passer dans cette dynamique-là. Et de l'autre côté, on a un savant protestant, John Robison, un savant écossais, qui est tout à fait respecté, respectable dans son domaine. Hein. C'est un naturaliste bien connu de cette époque-là, mais qui a des idées politiques très conservatrices. Et lui, alors c'est le chassé-croisé, c'est-à-dire que les correspondants de Baruel étaient des protestants et ils renseignaient un ancien jésuite catholique. Lui est protestant et calviniste et il a des correspondants qui sont notamment des moines écossais qui sont dans un monastère donc en Bavière. Et c'est depuis ce monastère qu'ils vont lui donner des informations de première main sur ce qui se passe à propos donc de ceux qu'il appelle les Illuminati. Et c'est lui qui va finalement, son livre paraît après celui de Baruel, mais c'est lui qui a l'idée du terme Illuminati. C'est lui qui va effectivement dire qu'il a les preuves d'une conspiration, aussi bien associant les radicaux britanniques, parce que il y a toute une série de groupes dans la société britannique qui sont vraiment fascinés par la Révolution française. Il ne faut pas du tout imaginer que tous les Britanniques sont hostiles à la Révolution. Et donc lui fait le lien entre les Illuminati, les radicaux britanniques et tous ceux qui conspirent, d'après lui, contre l'ordre établi. Et pour vous montrer à quel point son ouvrage a eu du succès, eh bien, à peine paru, on s'en empare au Parlement britannique, à Westminster, et à la Chambre des communes, on le brandit comme si c'était vraiment la preuve de ce qui avançait, hein, vraiment au sens propre, proofs of the conspiracy. Et on adopte deux lois sur les serments secrets, donc deux lois qui ont pour but de lutter contre ces groupes radicaux et leur connexion possible avec les Illuminati, une en 1797, donc l'année même de sortie du livre, une autre 2 ans après, et comme je montre dans mon livre, certaines des dispositions seront actives encore jusqu'au milieu du XXe siècle. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, pendant la Révolution, alors que la France et l'Angleterre sont en guerre, eh bien, en Angleterre, on suspend l'habeas corpus, le Bill of Rights, etc. Et on veut vraiment lutter donc contre ces sociétés secrètes pour les extirper hein, de la vie politique britannique. On craint aussi leur rôle dans les projets de débarquement français en Irlande, etc., ou auprès des républicains irlandais. Donc il y a vraiment des problématiques très modernes. Et puis ça franchit en quelques semaines l'Atlantique, au point que un pasteur écrit au vieux George Washington, hein, qui va mourir 2 ans après, pour lui dire vous devriez vous méfier, les Illuminati sont là, ils ne se sont pas arrêtés en Angleterre, ils sont là, ils vont voler l'élection au président sortant, John Adams, ils vont lui voler l'élection au profit de Thomas Jefferson, qui est accusé d'être beaucoup trop proche des révolutionnaires français et des idées des Lumières radicales. Et donc, vous imaginez, l'élection ayant lieu en 1800, c'est d'une extraordinaire modernité si on pense à toutes les théories aux États-Unis, non seulement de la conspiration, mais du vol des élections présidentielles. C'est pas du tout une nouveauté des années Trump. On l'a déjà de manière très très forte en 1800. Et John Adams, qui va effectivement perdre les élections, eh bien, va faire voter un certain nombre de lois précisément pour lutter lui aussi contre les prétendues sociétés secrètes. Donc, à un moment donné, hein, la lecture conspirationniste, eh bien, elle est tellement puissante qu'elle arrive à plier l'histoire, hein, donc à sa vision des choses et ensuite à se concrétiser par l'adoption de lois qui sont des lois liberticides mais qui sont très, très puissantes à cette époque-là.
Oui, c'était les Alien and Sedition Act, donc c'était la loi par rapport donc, aux étrangers et aux séditieux, hein, si je me rappelle bien, hein, et qui seront annulés par le président Thomas Jefferson, qui lui est plutôt sympathisant de la Révolution française. Voilà, donc c'est intéressant à mettre en parallèle avec l'actualité, vu qu'il y aura des élections aux États-Unis au mois de novembre, hein, de cette année, où il y a certains candidats qui s'appellent Donald Trump, qui est soutenu par une sphère qu'on peut sûrement qualifier de tenant de théorie conspirationniste, qui se nomme QAnon, hein, qui reprend peu ou prou les mêmes thèmes qui avaient été repris au début des années 1800. Bon, à l'illusion, c'était surtout les pasteurs calvinistes et les, ce qu'on appelait les contre-révolutionnaires qui avaient repris cette thèse-là. Et pour eux, il fallait qu'ils protègent c'était le nord-est américain au départ. Après, c'était avant que les États-Unis et l'Amérique soient formés. C'était vraiment ce qu'on appelle, hein, le bastion nord-est WASP. Et pour eux, c'était c'est le nord-est américain. C'était le symbole de l'union avec Dieu qu'il fallait protéger des ferments athéistes venus du continent européen, donc la Révolution française. Et voilà, donc QAnon, hein, c'est autre chose. Hein, c'est vraiment un mélange de d'ésotérisme aussi, de New Age, avec des choses aussi christianisme évangélique. Enfin, c'est vraiment très ça a pas grand chose à voir, hein, c'est très c'est très très étrange, un ovni, mais il y a quand même quelques ressemblances, et c'est quand même à noter. Voilà, il y a des emprunts qui vont se faire, on peut dire ça comme ça.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je dis matrice, c'est que vous pouvez emprunter un certain nombre de références, de choses, et puis ensuite en faire toute autre chose, hein, l'amalgamer, mais de la même façon qu'on va dire aux États-Unis, hein, que parce qu'elle a été offerte par souscription par des Français, ben non pas par la Troisième République, contrairement à ce qu'on dit souvent, hein, la statue de la liberté est considérée comme le cheval de Troie des Illuminati. Hein, et dans le cas des Sedition and Alien Act, il faut savoir que ça va très loin. Le propre petit-fils de Benjamin Franklin, qui était un journaliste, est arrêté. Il y a toute une dimension qui est très présente ensuite dans la mémoire collective américaine de ce qu'on appelle Illuminati Scare, la terreur Illuminati de ces années 1797-1800, qui est très très présente. Il ne faut pas du tout la sous-estimer, hein, dans l'imaginaire politique américain, et puis surtout parce que ça emprunte aussi la voie de la fiction. Alors aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. On pense tous à Assassin's Creed, puis le volume sur la Révolution. Et là aussi, il y avait les Templiers plus les Illuminati. On pense bien évidemment au roman de Dan Brown, on pense aux séries télévisées. Il y a même un film d'animation qui s'appelle Donald Trump versus les Illuminati, qui se passe dans l'espace. La dernière franchise Marvel sur Doctor Strange, il est lui-même jugé par un tribunal Illuminati dans l'espace. Donc il faut bien considérer que ce n'est pas quelque chose d'ancien, c'est sans arrêt réactualisé. Et ensuite, selon votre propre agenda, selon vos propres attentes, vous relisez les choses de manière différente. Vous relisez bien évidemment aussi le grand saut des États-Unis, adopté, dont le graphisme a été adopté à la fin des années 1780, lorsqu'il devient la symbolique du dollar américain, donc dans les années 30. Et là, vous revisitez aussi bien l'œil de la Providence que la pyramide inachevée, etc. Donc là, on est en plein dans ces références à la fois symboliques et ésotériques. Et bien évidemment, pour les attribuer aux Illuminati, alors que, comme je vous l'ai dit, leur symbole à eux, c'est la chouette de Minerve. D'ailleurs, c'est une petite chouette toute mignonne, mais qui n'a absolument rien de terrifiant. Et l'idée qu'à travers elle, les aveugles, ceux qu'on avait aveuglés jusque-là, vont voir. Et donc, c'est tout à fait intéressant de se rendre compte que, comme en plus, il n'y a pas d'Illuminaten aujourd'hui pour pouvoir contester ce type de lecture et dire « non, mais pas du tout », etc. Eh bien, il y a une sorte de marché ouvert où on peut puiser tous les éléments qu'on veut, les recombiner comme on le souhaite pour expliquer tous les désordres du monde.
Oui, voilà. Et ça, d'une part, mais c'est marrant, vous faisiez des allusions un peu à la culture pop hein, dans le développement de contemporain là du mythe des Illuminati, ça me fait penser, il y a eu un livre assez intéressant qui a été fait sur QAnon, hein, c'est des auteurs italiens hein, qui s'appelle Wuming, ça s'appelle Q comme complot, qui était paru aux éditions de Luxe. Il a beaucoup travaillé sur toutes les narrations et s'inspire aussi beaucoup du pendule de Foucault de Umberto Eco, et qui parle de la culture pop. Et eux disent que, en fait, il y a un livre très connu de la culture pop hein, qui s'appelle Las Vegas Parano de Hunter Thompson hein, qui parle de quelque chose qui s'appelle l'adrénochrome. Hein. Alors, ça serait par rapport à des rituels de cannibalisme, de vampirisme, où on extrairait l'adrénochrome du corps des enfants. Et tout ça, ça fait un peu le parallèle avec tous les fantasmes un peu antisémites hein, sur les juifs qui buveraient le sang des enfants. Avec là, c'est un composé chimique, mais bon, ça fait un peu Ça revigore un vieux mythe antisémite et c'est des emprunts à des mythes qui sont là. Donc il y a rien de nouveau sous le soleil, mais ça fait une bonne perche pour parler donc que l'abbé Baruel en 1806, il va recevoir une lettre d'un de ses lecteurs qui s'appelle Simonini, qui va lui envoyer une lettre qui réclame l'attention de l'abbé Baruel sur l'existence dans le Illuminati du complot juif. Et selon Simonini, hein, les Templiers, les francs-maçons, les Illuminati, les Jacobins, tout ça, ils auraient joint leur force au complot juif. Et l'abbé Baruel, même s'il était sceptique au début, il va réinterpréter cette thèse-là à travers les rééditions de son livre qui vont donner un écho à cette théorie, c'est ça dont parle dans le cimetière de Prague de Foucault, il y a un descendant de Simonini, donc ça apparaît aussi dans la terre, donc c'est assez intéressant aussi, ces choses-là.
Oui, tout à fait, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'il y a le Simonini historique, hein, celui qui est un correspondant de l'abbé Baruel, donc c'est vraiment un courrier des lecteurs, hein. Comme vous le disiez, moi j'ai retrouvé les copies faites par Baruel, annotées par lui, etc. lorsqu'il préparait la réédition, donc celle de 1806, de ses mémoires pour servir l'histoire du jacobinisme, il hésite, il se demande si c'est pas une provocation de manipulation, parce qu'en fait, Simonini lui dit « Maître, votre livre est très très bien, mais moi j'ai rencontré les vrais... dirigeant de cette conspiration mondiale, derrière les Illuminaten, derrière les Jacobins, il y a les Juifs. Je les ai rencontrés à Livourne, dans ce port franc très important du XVIIIe siècle, et ce sont eux, en fait, qui dirigent le monde. » Alors, bien évidemment, Baruel, qui cherche aussi le coup de librairie, hein, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, après avoir hésité, il l'intègre, et très rapidement après, ceux qui vont poursuivre ces théories de la conspiration au XIXe siècle, eh bien, ne vont gommer l'aspect que... Il s'agirait d'un courrier des lecteurs pour y voir aussi, parce que c'est un document donc ancien, du début du XIXe siècle, une véritable preuve, le même phénomène qu'avec Robison. Et de proche en proche, eh bien ensuite, ça va devenir un document structurant, puisqu'en fait, on le retrouve jusque dans la genèse des protocoles des sages de Sion. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique. Aujourd'hui, vous avez de très très nombreuses occurrences et citations de ce document-là. C'est pour ça que le parallèle que vous faisiez avec le roman d'Umberto Eco est intéressant, parce que dans le cimetière de Prague, Umberto Eco ne leurre jamais son lecteur. Hein. Il fait toujours le distinguo entre le côté académique de son travail, et puis le côté romancier. Et donc, lui, il invente le petit-fils de Simonini, le petit-fils du mien, si vous voulez, et dedans, il voit comment le grand-père, lui, fournit cette lettre, donc la lettre adressée à l'abbé Baruel, tout simplement comme une sorte de canevas sur lequel il va pouvoir greffer à toutes ses... parce que c'est le héros noir, hein, sombre assassin du roman, Simonini petit-fils, en gros, il va pouvoir poursuivre l'œuvre maléfique du grand-père, et donc, y compris en l'assassinant. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que ça prouve l'importance de la fiction. En histoire, ce sur quoi on insiste beaucoup, nous, c'est que la question, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est de comprendre pourquoi les gens y croient. Pourquoi les gens y croient et adhèrent à cette lecture du monde. Et bien là, avec les Illuminati, on a depuis l'origine un entrecroisement permanent de faits historiques, de fiction, de narration, d'invention, de faux. Hein, et ensuite, eh bien, vous moulinez tout ça et vous recréez une histoire. Et donc, en fait, cette histoire, elle est sans arrêt mise à jour en fonction des peurs du moment. Et donc, il n'y a aucune raison que ça s'interrompe, parce qu'on peut les mettre absolument à toutes les sauces. On le voit là au XIXe siècle, comme je vous dis, on le voit avec Marvel et Dr. Strange jugés par les Illuminati dans l'espace. Et donc ça, c'est très très intéressant. Et pour vous montrer que ça date pas de ni d'Umberto Eco ni quoi, le premier roman gothique aux États-Unis s'appelle Julie. C'est au 1801, Julia et le Baron Illuminati. Donc c'est vraiment très très présent, hier comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est accéléré par les réseaux sociaux, Internet et puis toute la civilisation numérique. Mais finalement, c'est consubstantiel aux origines du mythe. Quelle que soit l'époque, en fonction des supports, et notamment beaucoup de cultures visuelles, graphiques, on réactive.
Eh ben, on va faire la dernière pause avant d'arriver à la conclusion.
¡Suscríbete!
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On vient d'écouter Odilio González et le titre du morceau, c'est El Paquetero. Eh ben, on finit notre entretien avec Pierre-Yves Beaurepaire par rapport à son ouvrage Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot. Et pour finir, on pourrait se faire peut-être une petite, réflexion. Hein. C'était donc pour faire une petite lecture comme ça, réflexive de livre de Umberto Eco, hein, le pendule de Foucault, c'est que dans ce roman, hein, à un moment donné, hein, les histoires qui sont écrites par les personnages, les narrateurs de ce roman, elles furent considérées comme vraies chez certains cercles, certains milieux, voilà. Et cela, c'est un peu le, comme une reconstitution un peu d'une descente aux enfers au fur et à mesure que l'ironie des narrateurs cède la place au cauchemar avec les intentions critiques de la farce, ça s'évapore parce qu'au départ c'était une grande farce de gens qui étaient qui travaillaient sur la cabale, sur les templiers, voilà, c'était une farce littéraire et c'est devenu voilà, c'est devenu un complot au corps défendant des narrateurs. Et donc tout ça pour nous dire que voilà, il faut faire un peu attention à tout ça. Mais du coup, par rapport aux théories du complot, on peut conclure que elles ont une capacité à donner un sens aux troubles de l'époque. Et face aux situations qu'on ne comprend pas trop de crise, il y a deux discours distincts. Alors d'une part, on pourrait expliquer que la réalité, elle est complexe. Elle est d'autant plus complexe qu'on se trouve dans l'histoire immédiate, qu'on n'a pas tous les éléments d'analyse. Donc ça serait un peu la voie de la sagesse et de la raison. Et d'autre part, ça pourrait affirmer que tout est très simple, que l'explication est sous nos yeux, mais qu'il faut ouvrir nos yeux pour lutter contre ceux qui, dans l'ombre, veulent nous faire du mal, donc ceux qui font des complots. Voilà, il y a ces deux choses-là, mais ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus réduire les théories conspirationnistes à... juste de fausses informations et du ce qu'on pourrait dire du bullshit en langue moderne. Faudrait plutôt voir qu'il y a une panique morale, hein, qui est derrière cette rumeur et qu'il y a un public qui envoie une panique morale et qui est très friand de ces récits pour pas être déconnecté par rapport au monde. Donc vous en tant qu'historien, je crois que vous avez un point de vue par rapport à ça c'est assez intéressant, je crois, votre point de vue. Donc si vous pourrez un peu dire comment la façon la plus à même pour vous de faire face à cette théorie conspirationniste, en quoi ça consisterait?
Oui, moi je pense que c'est vraiment un enjeu important. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, parce que ce que j'explique au début, c'est que moi, quand j'avais 15 ans, les Illuminati, j'en avais jamais entendu parler. Aujourd'hui, vous allez au collège, au lycée, je l'ai fait très souvent pendant la rédaction de ce livre et puis après, ou même vous interrogez des CM2, ils savent vous faire la pyramide, l'œil qui voit tout, les Illuminati, ils en ont tous entendu parler, et aujourd'hui, quand les enseignants en quatrième ou en classe de seconde parlent des Lumières, on leur parle tout de suite, les élèves leur parlent tout de suite des francs-maçons et des Illuminati. Donc il y a une actualité du phénomène, et moi ce que je dis, c'est qu'en fait, tout cela, c'est à la fois le reflet de nos peurs, des peurs anciennes, là, 18e, etc., et des peurs contemporaines. C'est pour ça que je vais vraiment jusque nos années, jusqu'aux années 2020. Et en fait, les théories prospèrent là-dessus, sur nos peurs, mais aussi, elles ont une capacité que souvent une explication disant, vous savez, quand vous commencez à dire « Ah, c'est compliqué », etc., alors que de l'autre côté, on vous raconte une histoire, on vous raconte une histoire où tout fait sens, où tous les éléments qui pourraient paraître tout à fait secondaire, sans lien, s'emboîte parfaitement, un scénario très bien construit, et qui vous dit, voyez, la vérité, vous l'avez sous les yeux. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du billet d'un dollar, c'est-à-dire que vous avez sous les yeux les symboles de la mainmise donc de ces sociétés secrètes sur le monde. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'au passage, les scénaristes de séries, etc., adorent ces théories du complot, parce qu'elles forment quand même un boulevard pour raconter ce type de choses, où à la fois on se rassure en disant « ça y est, j'ai compris, je fais partie de ceux qui savent », et en même temps, on joue à se faire peur, et parfois on ne joue pas, on se fait vraiment peur, parce que eh bien, on a une sorte de dévoilement continu de ces complots, de ces conspirations. Et effectivement, ça n'est pas du bullshit. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est que, effectivement, dans l'histoire, il y a des conspirations, il y a des sociétés secrètes. Je montre que les Illuminati, moi, par exemple, c'est une vraie société secrète. Donc, il y a des complots et des conspirations tout au long du 19e siècle. Mais en fait, la force de ce type de structure, c'est qu'elle mélange en permanence le vrai, le faux, le plausible, et de manière générale, à la fois nous rassure, parce qu'elle nous dévoile, elle révèle, et en même temps se nourrit de nos peurs et entretient nos peurs. Et donc, c'est à la fois vraiment une sorte de baromètre, de témoin de nos peurs contemporaines, du malaise collectif des sociétés contemporaines, et donc dire « Oh, ben, c'est, vous savez, comme on dit pour les platistes, oh, ben, il n'y a que des idiots qui croient ça, etc. Et traiter ça par le mépris comme on l'a fait pendant très longtemps, je pense que c'est l'erreur fondamentale. Il faut prendre ça au sérieux comme vraiment une preuve de la souffrance morale, sociale, etc., du contemporain, et essayer d'y répondre. Et pour répondre, parce que c'est très difficile, hein, parce qu'il faut savoir que quand on entre, on s'auto-intoxique, exactement comme Baruel ou Robison l'ont fait, quand on entre dans ce type de lecture complotiste du monde, c'est très difficile d'en sortir parce que c'est extraordinairement séduisant, ça explique tout. Et donc, il faut prendre les arguments au sérieux. Il faut prendre les arguments au sérieux, discuter, essayer de montrer les complexités des choses, le fait que dans le scénario en question, eh bien, on a un peu forcé, voire beaucoup forcé la réalité, attribuer des choses à un tel, alors que ce serait plutôt tel autre. Voilà, essayer de faire revenir étape par étape, un esprit critique. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui donc développent et adhèrent à ces théories du complot considèrent aujourd'hui que l'esprit critique, c'est eux qui l'ont. C'est eux qui l'ont, c'est eux qui font preuve d'esprit critique, alors que l'ensemble des contemporains, si vous voulez, de leurs concitoyens, eux, ils adoptent les fameux médias mainstream et en fait, ils se laissent totalement bourrer le crâne par ceux qui ont intérêt à ce qu'ils ne manifestent pas cet esprit critique. Donc je pense qu'il faut surtout prendre au sérieux, arrêter de traiter ça par le mépris et puis tenter, c'est difficile, mais il faut le faire, de rétablir un dialogue, un échange, et c'est comme ça qu'on va faire revenir une forme d'esprit critique et aussi de raison, mais surtout pas en méprisant les gens et en considérant qu'en réalité ce sont des idiots. Et la preuve de ça, c'est que je me suis intéressé, donc, que ce soit au 18e ou jusqu'à aujourd'hui, à la sociologie de ceux qui croient ou qui diffusent ces idées-là. Vous l'avez, on l'a bien vu avec le Covid et autres, dans toutes les strates de la société, toutes les générations, et aussi bien des gens qui ont fait des études supérieures ou d'autres qui se sont arrêtés avant. Donc il n'y a pas du tout de corrélation entre j'ai pas fait d'études, etc. Donc je suis plus enclin à croire à cette théorie-là, ou au contraire, j'ai une position sociale plus élevée, j'ai fait des études, et donc je suis immunisé contre ça. Pas du tout. Et chacun de nous peut tomber dans ce type de lecture, parce que souvent on y entre par un domaine dans lequel on a peur et pas une sorte de peur généralisée. Il faut vraiment, il y a un travail de déconstruction de tout ça, mais ça suppose déjà de prendre à la fois la menace au sérieux, et puis au sérieux aussi celles et ceux qui adhèrent à ce type de lecture. Sinon, on n'y arrivera pas.
Eh ben, voilà, on vous remercie pour cet entretien. On note aussi que vous avez fait des atlas aussi très, très, très intéressants. Hein. J'avais lu ça.
Merci c'était, beaucoup.
C'était très, 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 très bien parce que ça nous montre la circulation des idées, d'où viennent les idées et comment elles circulent. Hein. Il y avait l'Atlas de l'Europe moderne, de la Renaissance aux Lumières aux éditions Autrement. Et avec Sylvia Mazzagalli, vous avez fait l'Atlas de la Révolution française, un basculement mondial aux éditions Autrement. Et ça montre aussi hein, comment les idées circulent, d'où elles viennent. Et ça aussi, c'est intéressant avec Descartes. Voilà, un peu pour montrer un peu d'où viennent les choses et comment elles circulent. Hein, voilà. Que les idées des Lumières circulent, les idées de théorie du complot circulent aussi. C'est une grosse circulation et c'est intéressant de savoir comment ça circule, à quelle époque et tout ça. Donc on recommande vos ouvrages qui sont assez intéressants. Et ben, on vous remercie pour cet entretien. On vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci pour votre accueil. Et bonne lecture.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.